Mais surtout, elle jouait à son piano comme joue un enfant, avec la gravité passagère du moment présent. La musique possède le pouvoir d'arrêter le temps. Elle offre une autre dimension qui dilue le passé, le présent, l'avenir dans la conscience aiguë d'un instant éphémère. En restant une enfant elle-même, la pianiste reste libre d'aller à la découverte, toujours droit devant, en se protégeant des pièges de la nostalgie trop sentimentale, de la vanité réellement puérile et du désir de possession qui empêche d'avancer. Vous êtes journaliste, Olivier Bellamy, grand reporter à Classica. Classica, c'est ce journal qu'on connaissait autrefois sous un autre titre.
Le monde de la musique, oui.
Le monde de la musique. On peut vous lire aussi dans Le Parisien et on peut vous écouter à la radio un peu plus loin que nous, sur la bande de la modulation de fréquence. Votre émission s'intitule Passion classique, ce qui donne déjà une indication sur le nom de la chaîne de radio qui la diffuse. Vous avez écrit aussi plusieurs documentaires musicaux pour la télévision et, à ma connaissance, mais vous allez infirmer ou confirmer, ce livre qui paraît aujourd'hui, Martha Argerich, L'enfant et les sortilèges, est votre premier livre.
Absolument.
Le désir, tout d'un coup, de donner à l'écriture une autre dimension que celle de l'article.
Je crois que c'est une rencontre. J'ai eu la chance d'approcher Martha Argerich, qui est une artiste, qui est une pianiste, comme vous le savez, qui est née en Argentine, qui vit à Bruxelles et un petit peu à Genève aussi, mais qui donne des concerts dans le monde entier, qui est une icône du piano aujourd'hui, qui est extrêmement secrète, qui ne se livre pas facilement. Elle donne pratiquement aucune interview. Et donc moi, j'ai eu la possibilité de l'approcher. Et évidemment, donc j'ai décroché une interview pour mon journal de l'époque, Le Monde de la Musique. Et après ça, j'ai voulu aller plus loin et on est devenus amis. Et je lui ai demandé un jour, voilà, j'aimerais bien écrire ce livre. Mais évidemment, j'avais ce désir, comme tout journaliste, d'aller plus loin, d'écrire un livre... Moi aussi, mais j'avais pas suffisamment de choses à dire. Or là, je pense que c'est cette fascination totale, cette emprise, comme ça, qui m'a saisi pour Martha Argerich, qui m'a donné la force, le courage d'écrire ce livre. Je pense que je l'aurais pas vu sinon.
Un livre qu'on doit lire comme un essai ou comme une biographie ?
Je pense que c'est comme un roman. Parce que c'est un personnage de roman, c'est un personnage avec une vie extraordinaire. Et je commence à Buenos Aires. Hein.
Vous avez vu que c'est... Il est né en 41.
Hein. Voilà, et que c'est à la fois chronologique et géographique, et que chaque chapitre correspond à une ville où elle a vécu, où elle a passé un concours, où elle a rencontré l'un des hommes de sa vie, où elle a été opérée d'un cancer. Enfin, à chaque fois, c'est toujours comme ça, une ville. Et... Donc on fait sa connaissance petit à petit, comme ça, par petites touches. Mais c'est un vrai personnage de roman. Toutes les personnes qui ont lu le livre ont dit « mais c'est un personnage incroyable, évidemment ». Les personnes qui s'intéressent à la musique classique savent qui est Martha Argerich, mais ils en ont souvent une image fausse, comme souvent.
Mmh. Elle a une sacrée réputation, hein, par exemple, de pianiste qui se décommande facilement au dernier moment.
Oui, puis elle a aussi une réputation de vamp, une réputation de... Or, elle est tout le contraire. Et c'est pour ça que je l'ai intitulée « L'enfant et les sortilèges », parce que pour moi, en fait, elle est un enfant. Elle a su rester libre, ce qu'on essaie, nous tous, de conserver en nous, cette petite part d'enfance qui fait que on n'est pas raisonnable tout le temps. Quand on nous commande, quand on nous dit de faire quelque chose, eh bien non, on suit plutôt son instinct, on suit son envie. Et c'est très difficile dans le monde dans lequel nous vivons, parce qu'on a un patron, on a des obligations, parfois des enfants, des parents, des gens, et voilà. Et on a surtout un personnage qu'on s'est construit. Elle ne sait pas vraiment qui elle est. Elle n'est pas, comme disait Nietzsche, le comédien de son propre idéal, parce qu'elle est. On a l'impression que la vie, c'est au jour le jour, et que ça passe, la musique passe à travers elle, sans qu'elle sache vraiment ce qui se produit en elle. Elle est incapable d'expliquer, elle est incapable, comme beaucoup de grands personnages, de grands chefs d'orchestre, de grands violonistes, de dire, voilà, là, c'est cette interprétation que je vais donner parce que je voudrais faire ressortir le jeu. Non, ça, elle en est incapable. Et c'est ça qui nous fascine, et moi, c'est ça qui m'a fasciné. Et d'où la difficulté de mon travail, puisque pour parler... avec elle, nos conversations, ça passait du coq à l'âne, donc il fallait toujours que je la ramène un petit peu vers là où je voulais aller, mais profondément, elle a beaucoup de mal. Alors évidemment, ça après, c'est le travail du journaliste ou de l'écrivain d'imaginer et aussi de laisser au lecteur une fenêtre de l'imagination, le laisser imaginer lui aussi, parce que chacun doit se faire son propre portrait de Martha Argerich. Mais je crois que c'est en l'écoutant, quand on l'entend jouer, c'est drôle, tout au début j'étais ému là, quand vous avez lu quelques lignes du livre et tout de suite on entend cette page de Chopin, on entend bien ce qui se passe en elle, on entend bien cette manière improvisée de jouer de la musique qui est absolument unique.
À quoi est-elle due, justement, cette singularité de son jeu?
C'est très, très difficile à dire. On peut expliquer le talent. Est-ce qu'on peut expliquer le génie? Je pense pas. C'est extrêmement difficile. Elle a quelque chose... Alors, si on veut essayer, tout de même, de définir son jeu, moi, je dirais que la sonorité est absolument extraordinaire. Parce que c'est une sonorité qui fait penser à la sonorité d'un violon. Or, le piano est un instrument à percussion. Il ne chante pas. Les pianistes sont un petit peu des magiciens pour essayer de faire chanter cet instrument à percussion. Mais avec Martha Argerich, on a vraiment l'impression qu'on a le crin, la corde, l'archer, comme ça, et que c'est encore une fois une petite voix d'enfant quand il y a un chant comme ça dans l'aigu, c'est une petite voix d'enfant. Et en même temps, dans la basse, on entend d'autres personnages. Et par exemple, dans Robert Schumann, c'est un univers extrêmement, extrêmement riche et on entend beaucoup de personnages. Tout son jeu est un roman aussi. Elle raconte une histoire aussi à travers les pièces qu'elle joue.
Il lui est arrivé de jouer pour vous tout seul quand vous veniez la voir?
Non, c'est pas son genre. C'est des moments volés comme ça. Elle travaillait. Moi, à chaque fois que je l'ai rencontrée, je suis allé plusieurs fois chez elle à Bruxelles. Et quelquefois elle parle et quelquefois elle n'a pas envie de parler, donc elle va travailler. Et là, il faut tendre l'oreille et écouter. Et voilà. Et puis des fois, tout d'un coup, elle joue une pièce de Liszt ou de Chopin, où elle travaille un concerto de Beethoven pour le lendemain ou pour dans 3 jours. Et là, on est tapis comme ça dans l'ombre et on a l'impression d'un moment miraculeux. Mais je crois que c'est pas si extraordinaire d'entendre Martha Argerich jouer seule chez elle. Je crois, à moins d'être un peu fétichiste, ce que je ne crois pas être. Mais je crois que n'importe qui, il suffit d'écouter les disques, c'est public, c'est tout le monde peut entendre et être ému par ce jeu.
Et ce soir, elle va jouer pour nous seule. On va écouter un autre extrait de ce disque qui vient de sortir, d'enregistrement d'inédit de Chopin, inédit dans son jeu à elle, qui est sorti chez Deutsche Grammophon. Martha Argerich, L'enfant et les sortilèges, votre livre, Olivier Bellamy chez Buchet-Chastel, le premier essai biographique, sans doute, consacré en France à cette grande pianiste.
Et même dans le monde.
Qui ressemble, dites-vous, à une indienne.
Quand elle était petite, oui, sur les photos, comme cela, là. Et même les personnes, je sais qu'une fois, Philippe Tesson l'a... Le journaliste que l'on connaît bien l'a rencontré et il m'a dit « Mais c'est incroyable, elle est indienne ou elle est asiatique, qu'est-ce que... » Non, en fait, elle est née d'un père argentin, qui était un pur argentin, comme ça, un peu macho, avec lequel elle avait une relation très, très intense, très extraordinaire pour une enfant, parce qu'il lui écrivait des poèmes. Il lui chantait des chansons, il jouait de la guitare comme ça, sans avoir appris. Et il la réveillait parfois en pleine nuit pour lui raconter des histoires, pour qu'ils mangent ensemble. Il rentrait de goguette à 2h du matin, il réveillait sa fille. C'est très... Enfin, on n'a pas l'habitude, c'est une vie quand même pas si courante que ça pour une enfant. Et sa mère, donc, était...
Vous insistez sur l'importance du rôle de sa mère.
Ah oui. Mais de toute façon, je crois que tout pianiste, chez tout pianiste, ça comporte des exceptions, mais tout pianiste, la mère est très importante. D'ailleurs, le grand professeur de violon, Léopold Auer, grand professeur de violon à Saint-Pétersbourg, quand il recevait des jeunes élèves, il demandait « Est-ce que c'est toi qui veux faire du violon ou est-ce que c'est ta mère ?» Et si l'enfant répondait « C'est moi », il ne les prenait pas dans sa classe, parce qu'il disait « La volonté d'un enfant est changeante, mais celle d'une mère est inflexible. » Et c'est vrai que la mère de Martha Argerich, bon, elle est née à Villa Clara, d'ailleurs là où est né Joseph Kessel. C'était comme ça une communauté de juifs ashkénazes qui avait été sauvée des pogroms par le baron Hirsch. Donc elle était originaire de Biélorussie. Et c'était une femme très extraordinaire parce qu'elle n'était pas musicienne du tout. Mais dès qu'elle a su que son enfant avait un don extraordinaire, elle a tout fait pour l'amener chez le meilleur professeur d'Argentine à cette époque-là est l'un des plus grands dans le monde qui s'appelait Vincenzo Scaramuzza. Et Scaramuzza lui a dit un jour « Vous pourriez être mon assistante » tellement elle était investie dans ce rôle. Elle prenait en sténo comme ça tout ce qu'il disait. Ensuite, elle travaillait avec sa fille. Mais il fallait bien sûr qu'elle tire sa fille au piano parce que Martha, déjà à cette époque-là, déjà toute petite fille, tu commençais avec Scaramuzza à l'âge de 5 ans, hein, même si elle a commencé le piano avec un autre professeur à l'âge de 3 ans, eh bien, elle était comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle avait envie de vivre, quoi. Elle n'avait pas forcément envie d'être une esclave attachée à son piano.
La mère va voyager à l'étranger, s'établir à Vienne, à Genève, dans d'autres endroits encore, mais elle ne change pas le cap. Elle continue à tout régenter de loin.
Oui. Mais c'est une relation étrange. Je pense que elle sent que si elle n'est pas là, Martha arrêtera de jouer du piano. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. À un moment, Martha Argerich a cessé de jouer. Évidemment, sa mère, ça l'a rendue folle. Mais je crois aussi que sa mère, pour elle, ça a été comme la chance de sa vie. C'est-à-dire que elle venait d'un milieu très pauvre. Elle ne s'entendait pas très bien avec son mari. Elle était toujours en train de se disputer. Et là, tout d'un coup, elle était la mère de Martha Argerich, c'est-à-dire une des artistes les plus célèbres du monde, l'une des plus grandes pianistes. Et évidemment, elle était, je pense, fière de ce rôle. Et ça lui donnait un certain pouvoir aussi. On venait la voir parce qu'on voulait rencontrer Martha. Donc voilà. Mais c'était un personnage unique, c'est-à-dire que c'est un personnage extrêmement généreux. Dès que quelqu'un venait la voir et lui disait « voilà, je ne réussis pas, ça, je n'arrive pas », pour lui, elle aurait fait n'importe quoi. Même une fois, Martha m'a raconté qu'un de ses amis, qui était un petit peu pianiste, comme ça, et ça ne marchait pas trop. Alors la mère de Martha lui a demandé « mais... Tu joues du piano, mais est-ce que tu fais pas autre chose ?» Il dit « Oui, quand j'étais jeune, je dessinais un peu. Montre-moi. » Alors il lui montre un petit peu ses dessins. Elle dit « Elle trouve ça bien. » Elle l'emmène, ses dessins, chez un peintre connu. Le peintre dit « Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose. » Et donc elle a tout fait pour que ce Alberto da Costa, puisque c'est son nom, réussissent, et maintenant c'est un peintre qui vend ses tableaux très bien. Donc elle avait un côté Pygmalion, comme ça, la mère de Martha Argerich. Mmh. Le problème, c'est que Martha ne voulait pas. Elle, si quelqu'un lui disait une chose, ça allait, mais si c'est sa mère qui lui disait, elle s'opposait toujours, elle était toujours en opposition avec sa mère.
Mmh. Martha, à son tour, deviendra mère, elle aura 3 filles. Comment une telle pianiste peut-elle exercer ce métier de mère? Parce que c'est un métier aussi.
Oui, ben c'est toute la question. Mais Martha n'a pas voulu ses enfants. Elle ne les a pas désirés, mais elle les a acceptés dans sa vie. Comme toute chose qui se produit dans sa vie, elle ne mène pas une carrière. Elle n'a pas dirigé, elle n'a pas dit « voilà, je voudrais jouer à l'Orchestre Philharmonique de Berlin, ensuite je voudrais Vienne, ensuite je voudrais Chicago », comme la plupart des pianistes qui font une carrière. Ça se dirige, on fait ça avec un agent. Alors que l'un des agents de Martha Argerich a dit une fois « Martha a tout fait pour saboter sa carrière, mais n'y est jamais parvenue ». Donc, évidemment, tout cela... Ça la dépasse complètement. Et le fait d'être mère aussi. Donc ses enfants sont arrivés, comme elle respecte la vie humaine, elle n'a pas voulu avorter, mais elle les a accueillis dans sa vie. Mais comme c'est une vie extrêmement compliquée, avec comme ça beaucoup de gens qui passent, et en plus quand elle a eu son premier enfant, elle avait cessé de jouer au piano, donc elle était extrêmement perturbée. Il y a eu un épisode assez dramatique que je raconte aussi dans le livre, mais je pense qu'il vaut mieux que le lecteur le découvre lui-même. Et voilà, mais bon, elle n'était pas faite pour être pianiste, elle n'était peut-être pas faite pour être mère, elle était faite pour être enfant tout le temps et rester comme ça, aller à la découverte de la vie. Mais la vie ne veut pas toujours ce que vous voulez. En tout cas, elle a toujours fait en sorte que ça marche comme ça.
Ouais. Quelle place le piano a-t-il occupé dans sa vie tout au long des années ?
Une place fondamentale. Fondamentale. Je lui ai demandé très très récemment, il y a très très peu de temps, qu'est-ce qu'elle ressentait quand elle se mettait au piano comme ça ? Si c'était une torture, c'était difficile, elle dit non, dès que je vais au piano, je suis heureuse, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui m'ennuie, c'est les voyages, c'est les choses, les agents, le stress avant, les choses après, les dîners, enfin tout ce qu'il y a autour m'ennuie. Elle me dit, quand je suis au piano, que ce soit en concert ou chez moi, j'ai l'impression d'être dans mon centre, dans mon intimité profonde. Et je crois que la vraie Martha Argerich, elle est là. Elle est au piano.
Avec ses professeurs, ça s'est passé convenablement.
Alors son premier professeur, c'était une dame comme ça, qui était très médiatique, qui faisait apprendre la musique aux enfants sans qu'ils la lisent. Et donc Martha avait un petit peu moins de 3 ans. Et elle racontait des histoires comme ça, vous savez, de manière pédagogique. On dit, là, tu vois, c'est cette mélodie-là, c'est le dauphin qui va dans la mer, et puis là, c'est la panthère, à un moment donné, qui arrive... Enfin, je vois pas une panthère avec un dauphin. Enfin, bref. Elle imaginait des histoires, mais Martha, elle était habituée aux histoires de son père, qui lui racontait des contes fantastiques beaucoup plus extraordinaire, et elle n'aimait pas trop ça. Et surtout, elle a eu les manifestations du trac très tôt. Ça, c'est extrêmement troublant, parce qu'un enfant prodige, un enfant qui a un très grand talent, normalement, il n'a pas le trac. Le trac vient avec la conscience des choses à l'adolescence. Voilà. Mais sinon, quand on est enfant, on joue, que c'est tout apparaît simple, facile, les gens vous disent mais c'est magnifique, les gens applaudissent, quand on est un enfant on est heureux. Or elle avait une exigence d'adulte, alors qu'elle était, et c'est ça le paradoxe, l'un des nombreux paradoxes de la vie de Martha Argerich, c'est que j'ai sous-titré ce livre L'enfant et les sortilèges, parce qu'elle est restée un enfant, mais en même temps, et peut-être aussi pour cette raison-là, elle avait une conscience d'adulte très tôt. Et elle a eu des tracts épouvantables. Quand elle était petite, il fallait se mettre à quatre pour la pousser, pour aller sur scène. Enfin, c'est des histoires que je raconte qui sont incroyables.
Aujourd'hui, elle a toujours le trac ?
Oui, je crois. Puisque le livre commence par... J'ai voulu qu'en 3 pages, on ait tout de suite l'idée, si on n'a jamais entendu parler de Martha Argerich, que le lecteur, comme ça, qui découvre le livre, qui l'ouvre, sache tout de suite qui elle est, comme ça. Et donc c'est un concert qu'elle a donné à Ferrare, c'est en 2003, et c'est le 3e concerto de Beethoven. Et il y a un disque, d'ailleurs, de ce concert, et c'est Claudio Abbado, qui dirige l'orchestre, et c'est un concerto qu'elle a joué très très peu de fois, qu'elle connaît évidemment, qu'elle écoute, qu'elle adore, mais Martha Argerich a joué très souvent les 2 premiers concertos de Beethoven, mais pas les 3 suivants. Alors ça paraît extraordinaire, parce que sa technique est absolument fabuleuse, elle est capable de absolument tout jouer, les choses les plus difficiles, mais ces 3 concertos, elle ne les a pas joués, parce que je crois qu'elle les considère comme des personnes. Elle voit les œuvres d'art comme des personnes. Et donc, si une œuvre... Vous savez, des fois, on est attiré par des gens, mais on sent qu'on n'a pas le contact. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, il vaut mieux pas les voir, parce qu'on sait que ça ne marchera pas, ou ça nous demandera trop d'efforts, ou alors si on est très très amoureux de quelqu'un, on n'ose pas lui dire un mot, on est absolument muet. Et bien Martha Argerich, avec le 4e concerto de Beethoven, par exemple, elle est exactement comme ça. Ça la rend la bouche sèche, muette, et elle ne l'a jamais joué sur une scène. Et le 3e concerto de Beethoven, donc, pour en revenir à Ferrare, eh bien, elle a eu un trac épouvantable. Elle sanglotait dans sa loge. Elle disait, je veux pas y aller, je veux pas y aller, c'est pas possible. Mmh. Et puis Claudio Abbado, qui a eu un cancer, et qui dit à ses amis que c'est la musique qui lui a sauvé la vie, est entré dans sa loge. Et quand elle l'a vu, comme ça, tout mince, tout fragile, mais avec dans les yeux une espèce de feu intérieur, elle a oublié d'un coup toutes ses peurs. Parce que Martin Gage, qui a un trac épouvantable et qui annule d'ailleurs souvent ses concerts pour cette raison-là, dès qu'il s'agit de faire plaisir à un ami ou dès qu'il s'agit d'une cause humanitaire, là elle sait que c'est pour les autres et là elle en oublie ses frayeurs. Et c'est moi, je l'ai accompagnée une fois à Rotterdam, elle avait un lumbago terrible, elle souffrait le carcan. Et je l'ai accompagnée, mais c'était impensable pour elle, parce que c'est le cachet, enfin je veux dire la recette du concert était au profit d'un hôpital pour les enfants, et c'était impensable pour elle de ne pas être là.
Ce qui frappe quand on l'écoute, vous le disiez tout à l'heure, Olivier Bellamy, c'est le naturel de son jeu, un naturel sur lequel vous insistez du reste dans votre livre, Martha Argerich, L'enfant et les sortilèges. Vous parlez même de naturel absolu, comme on a une oreille absolue.
Oui, c'est ça. Quelque chose comme ça, mais c'est... Elle est très... Ce qui est incroyable, c'est que... Vous savez, c'est Alfred Hitchcock qui disait, moi, il y a deux personnes qui me font peur, c'est les gendarmes et les enfants. Et sa mère était un peu un gendarme, Martha, mais elle est un enfant. Et un enfant... On se sent un peu décontenancé avec quelqu'un qui est extrêmement naturel. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle fait un peu peur, qu'elle fait un peu peur à tous ceux qui l'approchent, parce que si elle n'a pas envie, les gens, vous voyez, vous-même, je suis sûr qu'il y a des gens qui vous approchent, qui ont quelque chose à vous demander, mais comme vous êtes poli, comme vous dites, vous essayez d'être comme ça, arrangeant, vous dites, écoutez, peut-être pas tout de suite, peut-être... Martin, oh non, ça m'ennuie, j'ai pas envie. Voilà, elle le dit comme un enfant. Donc évidemment, à chaque fois, on a le risque d'essuyer une rebuffade, parfois publique, et donc ça, ça rend les gens un peu comme ça. Le naturel, comme ça, quelqu'un qui n'a pas la langue de bois, c'est extrêmement dangereux. Enfin, c'est extraordinaire, je trouve. Mais c'est aussi, ça fait peur.
Mmh. Naturel qui fait aussi la spécificité de son jeu.
Ouais. Hein.
Et on remarque que ceux qui l'ont connu de très près ont aussi, comme nous, beaucoup de difficultés à essayer de définir ce jeu et ce naturel. Dutoit, par exemple, Charles Dutoit, qui l'a très bien connu, hein, parce que je crois qu'il a vécu avec elle pendant un temps, dit que son talent est un mystère.
Ouais, son talent est un mystère. Moi, je dis que c'est plus qu'un talent. Je dis que c'est du génie. Comme Marcel Proust, hein, dans Le Temps retrouvé, où il dit que certains s'interprètent comme ça, il parle actrice de théâtre, arrivent à comme ça à transcender une œuvre tellement qu'ils en deviennent des créateurs. Je crois que Martha Argerich appartient à cette famille-là. C'est extrêmement rare, mais il y a des artistes comme ça qui sont des créateurs.
Mais il y a un autre pianiste, alors, qui la connaît très bien aussi, avec qui elle joue de temps en temps, à quatre mains, c'est Nelson Frère, pour qui elle a un troisième œil carrément derrière la tête.
Oui. Oui, c'est un personnage, étrange. Moi, elle me fait penser d'une certaine manière à Brigitte Bardot. Parce que, vous savez, il y a des acteurs, puisqu'on parle des acteurs comme Michel Bouquet, hein, où c'est toute une vie de réflexion à partir de l'œuvre. Et si on prend certains pianistes comme Alfred Brendel, hein, on pourrait établir un parallèle entre Michel Bouquet et Alfred Brendel. Martha Argerich serait plutôt une Brigitte Bardot. J'ai revu il n'y a pas longtemps la vérité d'Henri-Georges Clouzot. Je ne vois pas qui peut jouer comme ça. C'est incroyable. Là aussi, c'est un naturel extraordinaire, quoi. Quelqu'un qui passerait sa vie à... D'abord, il faut avoir la beauté de Brigitte Bardot, comme il faut avoir la beauté de la sonorité du jeu de Martha Argerich. Ça ne s'apprend pas. Mais ce naturel-là, aucune école au monde, et vous pouvez passer toute votre vie, jamais, je crois que c'est... Parce qu'il y a toujours quelque chose... Toujours quelque chose qui fera, qui trahira à un moment donné, qui fera soit une chose un peu acteur studio, on va dire, ah bah oui, tiens, là, d'accord, où on voit qui est son professeur. Oui, là, d'accord, c'est ça. Mais Martha Argerich, non. Ça échappe totalement à l'analyse.
Alors, il y a une question qui se pose, peut-être, Olivier Bellamy, c'est, à parler de naturel comme ça, est-ce qu'on on veut dire que Martha Argerich ne travaille pas beaucoup.
Elle n'a pas besoin de travailler. Elle n'a pas besoin de travailler sa technique. Elle avait, je crois, une technique naturelle. Mais évidemment, quand vous avez une technique naturelle, c'est-à-dire que les octaves, par exemple, qui est une chose très, très, très difficile dans la musique classique, les octaves rapides comme ça, c'est une chose qui était absolument naturelle. C'est comme la foudre, comme... comme la tempête, ça venait naturellement chez elle. Elle jouait très vite si elle voulait, enfin sans travailler du tout. Mais évidemment, la musique, c'est pas seulement ça. La musique, c'est pas seulement de la technique. Et je crois que plus vous avez une technique élaborée, et plus ce sentiment de responsabilité est grand. Et même quand elle était jeune, si elle apprenait des choses au dernier moment... Et tout le monde était absolument stupéfait d'entendre, mais comment est-ce qu'une gamine de 16 ans est capable de comprendre cette sonate de Beethoven? Comment cette gamine qui ne connaît rien de la vie est capable de trouver tout cela dans cette pièce de Chopin, toute cette douleur, tout ça? On a l'impression qu'elle a vécu 10 vies, qu'elle a souffert, qu'elle a aimé, qu'elle a été quittée, qu'elle a... Non! Il y a tellement dans la musique de Chopin d'émotions, de force, de douleur, que si on ne les a pas éprouvées soi-même, on ne peut pas. Elle, ça passait comme ça, naturellement, elle les connaissait. Ça, c'est aussi une sorte de génie. Mais aujourd'hui, je crois qu'elle travaille plus, parce que aujourd'hui, évidemment, avec l'âge, elle sent bien que il lui reste peu de temps et que bientôt elle ne sera plus là. Donc je crois qu'elle travaille encore plus pour ça aussi, parce que là, elle prend conscience de cette responsabilité qu'elle a vis-à-vis des œuvres. Chose qu'elle n'avait sans doute pas quand elle était jeune et belle et fraîche et courtisée par le monde entier. Elle est toujours appelée... n'importe où, partout, dans tous les orchestres, dans toutes les salles, toutes les salles du monde rêvent d'avoir Martha Argerich.
Quand elle travaille, vous précisez que c'est surtout à la nuit tombante.
Oui, ouais, ouais. Parce qu'elle est comme vos auditeurs, elle aime bien la nuit. Et elle est comme ça, elle se réveille de 2-3 heures de l'après-midi, comme ça, et elle ne s'endort qu'au petit matin. Elle est incapable de faire autrement. Là, je crois qu'elle se sent peut-être protégée la nuit. Elle a l'impression qu'on ne va pas la déranger ou la perturber, ce qui est une illusion, parce que les gens viennent sonner à sa porte à 2h, 3h du matin, comme ça. Et je pense qu'elle pense que comme ça, elle échappe à la réalité. En fait, là où elle est exactement comme nous, sauf que nous, on fait un effort et elle n'en fait pas, c'est qu'elle essaie d'échapper à la réalité. La réalité qui n'est pas drôle tous les jours. Alors quand nous n'avons pas le talent de jouer comme elle, on a la possibilité de l'écouter, d'écouter la musique ou de lire ou d'aller au musée, enfin, l'art. Peut-être c'est un moyen extraordinaire pour échapper à cette réalité. Et elle, ben voilà, elle ne dort pas la nuit, elle travaille un peu, puis elle va voir des amis ou les visite, les gens qui sont, parce qu'elle héberge aussi beaucoup de pianistes venus du monde entier. Et puis, à un moment donné, elle dit, ben non, ça y est, maintenant, il faut que je retourne travailler. Et puis elle revient, puis elle repart. Voilà, c'est une manière de... C'est sa manière de vivre.
Est-ce qu'elle vous a confié ce qui se passait en elle lorsqu'elle joue du piano?
Alors, je lui ai posé la question une fois, je lui ai dit, mais quand tu joues, à quoi tu penses? Et comme les Juifs, vous savez, qui vous répondent, quand vous leur posez une question, ils vous répondent par une autre question, elle m'a dit, mais quand on parle, à quoi on pense? Ben oui, c'est vrai, quand on parle, à quoi on pense? Est-ce qu'on pense à ce qu'on dit ou est-ce qu'on pense à la personne que l'on voit, est-ce qu'on pense à autre chose, aux poubelles qu'il faut rentrer le soir, ou aux enfants qu'il faut aller chercher, je ne sais pas. C'est très difficile, c'est très mystérieux tout ça. Je pense qu'elle le sait pas, mais il y a une chose qu'elle m'a dite aussi, c'est que quand elle était au piano, elle avait l'impression de... La seule image qui lui est venue, l'image la plus juste, c'est de dire c'est comme quand on fait du pain. C'est-à-dire quand on pétrit la pâte comme ça avec les touches du piano. Et je crois que c'est ça. Martin Grisch a une main faite pour le piano. Hein, on dit parfois que, vous savez, que quand on rencontre l'homme ou la femme de sa vie, c'était sa deuxième moitié qui était quelque part comme ça. Mais je crois que Martin Grisch, c'est le piano. C'est ça. Sa main est le prolongement du piano. Alors ça se passe, c'est beaucoup plus fréquent chez des violonistes ou chez des violoncellistes, parce qu'il y a un rapport avec l'instrument qui est beaucoup plus charnel, qui est beaucoup plus proche. Le violon, on le porte près de sur le cou comme ça. Le violoncelle, on le prend entre les jambes. Le piano, c'est un grand monstre noir à marteau. Donc la fusion est beaucoup plus difficile. Et ben, je pense que quand on entend Martin Grisch ou quand on entend Vladimir Horowitz, c'est ce genre d'impression-là qu'on peut avoir.
Le livre d'Olivier Bellamy, Martin Grisch, L'enfant et les sortilèges, est publié chez Buchet-Chastel. Du jour au lendemain, Pierre Mine, Anne Franchini, Didier Pinault, Alain Weinstein, bonsoir.